le droit divin qu'ils interprètent à leur sauce. Et ça, c'est malheureusement quelque chose dont il ne faut pas sous-estimer l'ampleur aujourd'hui dans la société française.
Il va y avoir des, donc non pas des seconds couteaux, mais des membres de cette nébuleuse. Que peuvent attendre les victimes de ce procès, exactement?
Oui, alors ce que vient de dire Michel Catalano est très, très éclairant. C'est-à-dire les victimes, vous le disiez également, c'est d'abord une demande de vérité, d'être reconnu comme victime, ce qui est le cas, on l'a vu, mais une demande de vérité qui... ce qu'il a dit, quoi, comment, des réponses très simples à des interrogations légitimes qui seront posées. La demande de vérité, elle est centrale dans tous les procès avec cette criminalité complexe qui mélange en quelque sorte les registres et qui nous oblige à aller plus loin. Parce que là, la particularité, c'est que vous aurez quoi? Vous aurez effectivement un acte que tout le monde connaît, une série d'actes que tout le monde connaît, mais les ramifications de cet acte-là. Et effectivement, ces réseaux de complicité et de nébuleuses qui, autour de l'acte, ont permis cet acte-là. Et le travail de la justice, ça va être de situer les niveaux de responsabilité à la hauteur de ce que chacun aura fait et aura reconnu d'avoir fait pendant ces auditions. La justice démocratique, donc, qui va incriminer et qui va mesurer les incriminations avec l'instrument de la loi. Ce que disait Gilles Kepel est très important par rapport à la loi. L'enjeu du procès, c'est précisément que cette loi-là, au nom de laquelle les islamistes ont tué, ce n'est pas une loi que la République reconnaît. C'est la loi légitime qui va se positionner en position centrale dans le procès pour s'imposer par rapport à cette loi qui a rendu licite le sang des mécréants. Non, ce n'est pas cette loi-là qui va dominer, c'est cette loi républicaine. Donc l'enjeu il va être là et il faudra effectivement le déployer. Juste un mot pour les auteurs. La banalité du mal de Hannah Arendt me semble au cœur de ce procès. C'est-à-dire un mal avec cette distorsion entre des conséquences tragiques et des causalités finalement extrêmement ténues. Et cette articulation entre une délinquance ordinaire que l'on va voir tout au long du procès et ce mal radical qui est au bout du procès va être au cœur du procès avec cette question centrale de l'innocence ou de la culpabilité, du rouage d'une machine totalitaire qu'a été en son temps Eichmann et que seront à leur mesure évidemment aujourd'hui les accusés du moment.
Anne.
Oui, Vincien Marin, une question sur la justice d'exception qui s'applique en matière de terrorisme. Je crois que vous vouliez dire des choses là-dessus.
Oui, ce que je voulais dire, c'est que, vous voyez, notre débat, il y a quelque chose qui me gêne un peu, c'est qu'on fait presque comme s'ils étaient déjà condamnés. Attention, le rôle de la justice, et ça entraînera peut-être le fait que des gens soient choqués, etc. Mais ils ne sont pas encore déclarés coupables, on ne sait pas. C'est compliqué, hein, l'association de malfaiteurs terroristes. Il faut connaître le projet terroriste. C'est compliqué à prouver.
C'est-à-dire établir la causalité entre la participation
et le résultat. Je savais qu'il allait aller à Charlie, je savais qu'il allait aller au supermarché Cachère. Il faut avoir des preuves de ça. C'est tout l'intérêt de la justice, c'est ce que disait Denis Salas. C'est que même si ça choque, si ce n'est pas prouvé qu'ils le savaient, les accusés, ils ne seront pas condamnés. Et évidemment, ça va poser des problèmes à certains.
Pour les victimes, pour les victimes, comment est-ce que ça peut être ressenti?
Alors, ça dépend des victimes. Moi, dans ma pratique de magistrat, je vois des gens qui acceptent totalement le fait que quelqu'un soit acquitté, soit relaxé, en disant « j'ai pu m'exprimer ». La plupart des gens sont comme ça, avec une grande humanité. Et certains l'acceptent absolument pas. Simplement pour finir, je voulais souligner deux contradictions. La justice, on dit toujours qu'elle doit panser les plaies. Oui, mais c'est difficile en matière de terrorisme, parce que la justice, elle met les gens en prison. Ce sont des foyers de radicalisation.
Vous dites que les prisons sont même des lieux, des viviers de radicalisation.
Mais ça, c'est clair. C'est le cas d'un des Kouachi. Hein. Ce sont des lieux de radicalisation. Et elle doit aussi... Elle doit aussi décider que les gens sont coupables et décider, évidemment, que le procès doit permettre d'entendre la parole et des éventuels auteurs et des victimes. Donc, vous voyez, c'est des injonctions très contradictoires
pour certaines. Vraiment. Vous voulez dire.
Oui. Et on peut quand
dernière
même,
question, Anne.
Oui, Gilles Kepel, on ne peut quand même pas rien faire. C'est-à-dire que c'est vrai que la prison est un lieu de radicalisation, mais on ne peut pas ne pas y mettre les gens qui sont coupables néanmoins. Donc, quelle est la solution?
Oui, bien sûr. Je voudrais revenir sur ce que madame... Oui, je crois, le procès, c'est aussi l'individuation des peines. C'est-à-dire, ça, il ne faut pas l'oublier. Moi, je parle en général sur la nébuleuse. Je ne me prononce pas sur, évidemment, la culpabilité des uns ou des autres, ou leur acquittement possible. Mais effectivement, la prison, c'est un énorme chantier, un énorme problème, puisque c'est l'incubateur du djihadisme. Alors, même si beaucoup de choses ont été faites, on a des en cellulement individuel, ça, qui coûte du coup une fortune aux contribuables. Et le problème, évidemment, c'est d'arriver à gérer le système carcéral. Alors, il y a eu, du fait du Covid, beaucoup de...
C'est la conclusion, j'allais dire que c'était la conclusion de ce débat.
Oui, c'est vrai, c'est une conclusion un peu...
C'est un peu
général, oui, mais enfin, c'est...
Elle ouvre sur d'autres questions.
C'est un prochain débat.